Duc et Gilles Gallinaro aussi au Select. Réalisation Georges Kiosoff. Demain, nous recevrons l'écrivain Michel El Castillo qui publie un pamphlet sur l'affaire du prépayant en bibliothèque. Nous appellerons Ahmed Essiad dont l'opéra Héloïse et Abélard sera créé le soir même à Mulhouse. Puis nous accueillerons Thierry Roisin qui est metteur en scène d'un Wojciech en langage des signes. Sans oublier bien entendu le billet d'humeur d'Alain Gérard Slama. À demain.
La publication actuelle des livres de Johan Esfer et de Claudine Normand, qui s'appuie sur le fond des manuscrits inédits de Ferdinand de Saussure, permet de mieux comprendre l'arbitraire, ce concept central de la théorie saussurienne. On y découvre ainsi que l'arbitraire n'est pas la convention, comme certains ont pu l'interpréter jusque-là. Lié au temps, il est social. Surtout, cette conception introduite à la notion d'un ordre propre à la langue et au système de signes. La façon dont Saussure écarte le référent a été beaucoup contestée. Sur cette voie, certains parlent même de position nominaliste de Saussure. Alors que, dans ce qui unit l'arbitraire du signe à la sémiologie, semble plutôt en question la théorie de la valeur et sa portée sémantique. Après la fièvre du structuralisme qui avait figé la théorie saussurienne en réglant trop vite la notion du temps par leur lecture des manuscrits inédits de Saussure, donc leur interprétation actuelle, Johan Esfer et Claudine Normand rendent au temps sa place centrale en liaison directe avec l'activité des locuteurs. Que devient alors le rapport entre l'arbitraire, toujours mis en avant par les structuralistes, et la sémiologie. Michel Arrivé.
Avec ce problème de l'arbitraire du signe, on est aux prises avec l'un des points absolument centraux de la réflexion de Ferdinand Saussure. Et la première chose qu'il faut dire, c'est l'originalité de cette théorie du signe. En gros, dans l'esprit du sujet parlant, quand il se met à réfléchir sur sa langue, et c'est son droit le plus strict, comment ça se passe, une langue? Comment ça se passe, le rapport entre les mots et les choses? Eh bien, il y a d'un côté les choses, ce que Saussure appelle les choses, ou les objets, ce qu'on appelle maintenant de façon pédantesque les référents. Et puis d'un autre côté, il y a les mots. Bon, et entre le mot et la chose, il y a, pour le sujet parlant, une relation immédiate et évidente. Eh bien, Saussure nous dit, cette relation, bien sûr, elle existe. Il n'y a pas de doute, on se sert bien des mots, finalement, pour parler des choses. Mais ce n'est pas ça qui importe dans la définition de la langue. Autrement dit, son geste consiste à exclure de la définition du signe linguistique, c'est-à-dire de l'objet qui signifie, son geste consiste à exclure la chose et à faire du signe un objet à deux faces qu'il baptise tardivement le signifiant et le signifié, après les avoir appelés tout bêtement au début concept pour signifier et image acoustique pour signifiant, en excluant la chose. Alors, bon, comment la chose ensuite réapparaît-elle? Ça, c'est un problème compliqué sur lequel peut-être nous aurons l'occasion de revenir.
Claudine Normand.
La chose, elle réapparaîtra et elle réapparaît presque tout de suite parce que cette définition de l'arbitraire, elle a été très difficile, cette position d'arbitraire a été très difficile à faire accepter par beaucoup de gens, précisément parce qu'elle est tout à fait contre-intuitive. Alors, c'est une notion qu'on a mis en avant tout de suite dans le structuralisme. On faisait même de Saussure le père de cette notion, alors qu'elle est très très ancienne dans la philosophie. Mais ce qu'il faut voir, c'est que c'est une position On peut résumer assez, c'est comme ça qu'elle s'est résumée dans le cours. Le lien de Saussure entre le signifiant et le signifié est arbitraire, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune relation naturelle qui s'impose entre, par exemple, alors les termes qu'il prend, c'est le signifiant sœur, c'est-à-dire la suite des sons sœur, et le concept de sœur. Cette position, il l'appelle la langue nomenclature. C'est-à-dire, c'est une sorte d'étiquette qu'on accolerait aux choses. Et il dit même, la plupart des conceptions que se font, ou du moins qu'offrent les philosophes du langage, font songer à notre premier père, Adam, appelant près de lui les divers animaux et leur donnant à chacun leur nom. Donc, constamment, dans les notes manuscrites, on trouve des affirmations contre cette position. Très très violente même quelquefois, mais elle a pourtant, cette position de l'arbitraire du signe a suscité beaucoup de critiques, et la première qui est très célèbre et qu'on cite toujours à cette occasion, c'est celle de Benveniste en 1939 très tôt, qui dit, alors je saute sur les détails de sa démonstration, arbitraire c'est prendre le point de vue de Sirius, c'est-à-dire en gros se situer à l'origine du langage, par autrement dit il associe arbitraire et convention, hein, c'est comme si des hommes s'étaient entendus pour parler d'une certaine façon, et au contraire, dit Benveniste, pour les locuteurs, le lien n'est pas du tout arbitraire, il est absolument nécessaire. Aucun locuteur ne peut séparer la suite des sons de l'idée qui est véhiculée par cette suite de sons.
Pierre Cossa. Benveniste témoigne par cette analyse, qui en même temps signifie un refus ou une dénégation de ce que dit Saussure, d'une prédilection pour le point de vue des philosophes que dénonce Saussure. En même temps, il montre aussi qu'il n'a pas lu Saussure ou qu'il n'avait pas pu le lire parce qu'on trouve chez Saussure de quoi retourner, et de façon plus forte, l'objection de Benveniste. En particulier, alors on la trouve, elle figure en tout cas deux fois dans le livre de Johannes Fehr et donc dans les notes, sous la forme de la notion paradoxale de convention nécessaire. Et cette notion est une notion, justement, elle est paradoxale, et c'est son caractère paradoxal qui en fait son intérêt. Mais, pour tenter de le comprendre, il faut essayer de l'analyser. Je l'analyserai de la façon suivante. Premier point, convention. Convention est un terme, en effet, capital ici, parce que, par rapport à toute la tradition, une tradition très ancienne, il signifie la contre-nature. Ce qui est conventionnel, c'est ce qui est contre-naturel. Si la convention, c'est la contre-nature, du coup, la convention, c'est la liberté. Mais la liberté au risque de l'artifice et du caprice. C'est ainsi d'ailleurs souvent que, en effet, les théoriciens de la convention, on peut appeler les conventionnalistes en général, c'est ce à quoi ils aboutissent. D'où, chez Saussure, dans l'expression de convention nécessaire, la correction, le correctif qu'introduit nécessaire par rapport à convention. Parler d'une convention nécessaire, c'est tordre la convention dans un sens qui, premièrement, met l'accent sur l'existence d'un ensemble. Ce dans quoi je parle, ce grâce à quoi je parle, c'est un ensemble sui generis, un ensemble qui a son ordre propre, et un ensemble que je trouve devant moi, dont j'hérite. Je n'en suis pas l'inventeur, personne n'est l'inventeur de la langue qu'il parle. Il en hérite, je le trouve dans mon berceau, nous le trouvons dans notre berceau à notre naissance. Mais, deuxième trait, et c'est là le point, et c'est là qu'on retrouve alors l'intérêt de ce paradoxe même de convention nécessaire, c'est que cet ordre, cet ensemble, qui a son ordre propre, est un ensemble qu'on ne trouve pas sous une forme absolument impérative à imposer. C'est un ensemble qui n'a de valeur, qui n'a de sens, que dans la mesure où il s'offre à nous pour que chacun en fasse une œuvre qui est son œuvre à lui. Et donc, convention nécessaire, on a dans ce paradoxe, en effet, de quoi justement rendre raison de ce qu'il y a de fécond, de ce qu'il y a de vigoureux, de puissant dans la notion d'arbitraire.
Claudine Normand.
Oui, alors sur la relation arbitraire et convention, là aussi il faut revenir, bon, même si on n'y revient pas d'une façon aussi philosophique que Pierre Cossa, c'est sûr que très souvent on assimile arbitraire et convention. Et même quand on présente Saussure, on se simplifie la vie quand on présente l'arbitraire du signe en disant ça veut dire que c'est comme s'il y avait une convention, autrement dit comme si on s'était entendu pour parler comme ça. Alors, généralement, à ce sujet, on cite un soi-disant précurseur de Saussure qui est le linguiste américain Whitney, de la deuxième moitié du XIXe siècle, qui a beaucoup insisté sur l'idée que la langue était une institution sociale et que, effectivement, les signes linguistiques étaient des conventions. Mais Saussure, il faut savoir que Saussure, justement, récusait le terme « convention ». Il le récusait dans la mesure où c'est un terme de logique et il posait que ce qu'ignorent les logiciens, ce qu'ignorent les philosophes, dit-il, c'est le fait que ça change tout le temps et que donc on ne peut pas parler de convention fixe. Si Whitney posait la convention, c'était parce que lui, il voulait régler le problème de l'origine du langage. L'origine du langage, c'est par convention. Mais Saussure considère, lui, que le problème de l'origine du langage n'est pas différent du problème du fonctionnement ordinaire du langage et qu'on n'a pas à se le poser, mais qu'en revanche, ce qui se passe dans le fonctionnement ordinaire, c'est du changement constant.
Celui qui crée une langue artificielle la tient en main tant qu'elle n'est pas en circulation. Mais dès l'instant qu'elle remplit sa mission et devient la chose de tout le monde, le contrôle échappe. L'espéranto est un essai de ce genre. S'il réussit, échappera-t-il à la loi fatale? Passé le premier moment, la langue entrera très probablement dans sa vie sémiologique. Elle se transmettra par des lois qui n'ont rien de commun avec la création réfléchie. Et l'on ne pourra plus revenir en arrière. Cours de linguistique générale, cité par Johannes Fer.
Je viens d'entendre parler de vie sémiologique. Pour moi, peut-être pour beaucoup d'autres, la vie, c'est une notion biologique. Et s'agissant de la langue, ça se passerait pas comme ça. Ça serait pas une notion biologique, physiologique. Enfin, la vie opposée à la mort, enfin, comme les gens, quoi.
Vous avez raison d'insister sur ce point. En effet, il ne s'agit pas du tout, chez Saussure, quand il parle de vie sémiologique, de la vie organiciste. Il ne s'agit donc pas de la notion de vie telle qu'on la rencontre, par exemple, chez son disciple Charles Bailly, dans Le langage et la vie. La vie sémiologique, terme que Saussure utilise à plusieurs reprises, veut dire autre chose. C'est la langue, en tant qu'elle est dynamique, en tant qu'elle est vivante, un jeu animé par ceux qui parlent, par les sujets parlants. Et donc, c'est la langue prise dans le procès de sa circulation sociale.
Il reste qu'il est difficile de comprendre cette position de l'arbitraire parce qu'elle est vraiment contre-intuitive. Elle va contre tout ce qu'on a envie de penser de la langue. Je pense qu'on pourrait lire peut-être là un passage où Saussure insiste bien sur le fait, c'est la chose peut-être la plus difficile à admettre, que la langue, ça n'est pas fondé. Ça n'est fondé ni en raison, ni en nature. Et c'était ça l'opposition dans les théories sur l'origine du langage. Ça n'est fondé ni en raison ni en nature, et il va même presque plus loin dans son texte, comme vous allez l'entendre. L'institution du mariage, selon la forme monogame, est probablement plus raisonnable que selon la forme polygame. Cela peut philosophiquement se discuter. Mais l'institution d'un signe, par exemple S pour désigner le son S, ou bien de cow ou de vaca pour l'idée de vache, est fondée sur l'irraison même. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune raison fondée sur la nature des choses et leur convenance qu'intervienne à aucun moment, soit pour maintenir, soit pour supprimer une... Alors là, il y a un blanc parce qu'on est dans les notes manuscrites. Par le fait même qu'il n'y a jamais dans la langue trace de corrélation interne entre les signes vocaux élevés, ces signes sont abandonnés à leur propre vie matérielle, d'une manière tout à fait inconnue dans le domaine où la forme extérieure pourra se réclamer du plus léger degré de connexité naturelle avec l'idée. ce terme « vivre raison » tout à fait dans le sens de ce que pense Johannes Fehr, je suppose.
Oui, je pense que là, on a vraiment le temps qui le caractérise, à l'opposé de beaucoup d'autres linguistes qui, nous l'avons entendu en ce qui concerne Émile Benveniste, essaie d'une certaine manière d'atténuer l'arbitraire linguistique en le motivant après coup. Or, ce n'est pas du tout ce que fait Saussure. Ce qu'il fait, c'est radicaliser, mais au plus haut point, ce principe de l'arbitraire et d'en faire donc le cœur de sa conception de la langue. Et en effet, s'il le radicalise, ça lui permet justement de montrer pourquoi les langues changent de par leur usage. Car si les langues n'étaient pas arbitraires, si elles étaient motivées par des choses ou par une convention, si le signe linguistique était motivé par une convention ou dominé, déterminé par les choses qu'il désigne, il n'y aurait aucune raison qu'il y ait changement par l'usage de la langue.
Est-ce qu'une sémantique est possible pour Saussure qui ne s'intéresse pas au rapport de la langue et du monde?
Alors justement, ça c'est le problème. Enfin, dans les années structuralistes, bon, finalement on louait Saussure de ne pas permettre une sémantique, ça permettait enfin de faire une linguistique formelle, sérieuse. Alors c'est évidemment ce qui a gêné très rapidement beaucoup de monde, parce qu'une linguistique sans sémantique, ça va... Bon, c'est une linguistique qui paraît tout à fait incomplète, mais c'est une erreur d'interprétation très, très grande, puisque Saussure parle toujours de signification. Seulement, il n'en parle pas de la même façon que celle qui est habituelle. Je pense que ce sur quoi il faut revenir là, toujours dans la perspective de l'arbitraire, c'est que cette notion d'arbitraire permet de définir quelque chose qui est ce que Saussure appelle l'ordre propre des signes. Il y a dans la langue un ordre propre, qui n'est pas l'ordre de la nature, qui n'est pas l'ordre de la raison, qui est l'ordre de la langue. Ça, c'est ce qui est le plus difficile à faire admettre aux philosophes. Et là-dessus, il y a quelque chose qui permet de comprendre un petit peu ce qu'il veut dire par là. Par exemple, justement, ce qu'il appelle l'arbitraire relatif. Et il a l'air de concéder ça peut ne pas être complètement arbitraire. Et il parle de l'arbitraire relatif. Mais cet arbitraire relatif, il faut voir les exemples qu'il choisit. Il dit, par exemple, dans la langue française, 10, hein, 10, c'est complètement arbitraire. 10, 20, c'est arbitraire. Mais 19, 29, ce n'est pas arbitraire, complètement, c'est relativement arbitraire. Ou bien encore, poire, c'est arbitraire, mais poirier, ce n'est pas complètement arbitraire. Or, il est absolument clair, quand il dit ça, qu'on est en train de changer de niveau, qu'on est en train d'entrer dans l'ordre linguistique. C'est-à-dire, si poire est arbitraire, c'est par rapport aux fruits réels que nous pouvons manger, mais si poirier n'est pas tout à fait arbitraire, c'est par rapport à poire, au nom poire, au mot poire, et pas du tout par rapport à l'arbre poirier, ni aux fruits poire. Alors, on a changé complètement de niveau, là, et ça, c'est important à saisir. À mon avis, c'est très important. Et je débouche là, très rapidement, sur ce qu'est une théorie de la signification chez Saussure. On ne peut pas le développer longuement, parce que ce serait un peu compliqué, mais ce qu'il faut voir, c'est que, pour lui, la langue, on revient sur un terme qu'on a déjà employé, la langue est un système, mais c'est un système de valeurs. Ce qu'il appelle un système de valeurs, il dit aussi un système de relations, il dit aussi un système de différences. C'est-à-dire que aucun mot, aucun signe en soi n'a de sens et même de réalité linguistique en soi. Il n'a de réalité linguistique, c'est-à-dire de signification, pour ce sûr, il n'a de réalité linguistique que dans ses relations aux autres, c'est-à-dire ceux avec lesquels il peut se combiner, par exemple, donc, poire, qui peut se combiner avec la poire douce à manger, et aussi avec ceux avec lesquels il peut s'échanger. Par exemple, moi, je préfère la pomme à la poire. Bon, alors là, on a très grossièrement, hein, évidemment, une esquisse de la, ce qu'on peut appeler la théorie de la valeur chez Saussure. Et pour lui, c'est là que ça se situe, la signification, c'est dans ses relations. Mais en même temps, il n'ignore pas qu'il y a quelque chose qui échappe. Il y a quelque chose qui échappe à cette analyse linguistique des valeurs. Et ça, ce qui échappe, c'est toutes les associations que chaque sujet peut faire et qu'il représente d'ailleurs dans un dessin curieux de constellation de signes. C'est toutes les associations qu'on peut faire, et chacun a ses associations personnelles sur tel ou tel mot, mais qui contribuent à la signification qu'a le mot pour le locuteur dans un énoncé de parole donnée, évidemment.
Pierre Cossa. Je dirais que il y a chez Saussure une sémantique, mais une sémantique nominaliste et radicalement nominaliste. Alors, qu'est-ce que c'est? Que faut-il entendre par là? Que peut-on entendre? Qu'est-ce que j'entends, moi, par là? Ce que j'entends par là, c'est, premièrement, la référence, en effet, à un nom, à un terme, nominalisme, qui a une longue histoire. Mais cette histoire, en même temps, est intéressante parce que, dans l'histoire, en tout cas, des doctrines, à la fois philosophiques, sémantiques, etc., nominalisme a toujours un peu senti le soufre. Et c'est ce soufre que je voudrais essayer de faire sentir à mon tour, et faire sentir surtout dans quelle mesure il permet d'approcher ce que Saussure est en train de mettre en place. Alors, qu'appellera-t-on nominalisme? À la lumière de Saussure, ou par rapport à Saussure, je dirais que je verrai quatre moments. Premièrement, il y a nominalisme à partir du moment où il y a rupture, reconnaissance d'une rupture entre les choses et les noms. Le nominalisme, d'abord, c'est un antinaturalisme. Naturalisme, ça veut dire, entre les choses et les noms, il y a un rapport naturel. On en a déjà parlé. Donc, le nominalisme, c'est le parti pris d'une rupture entre les choses et les noms. Les noms ne sont plus images ou copies des choses. Deuxièmement, du coup, n'étant plus images ou copies, ils sont libérés de l'asservissement aux choses. Et ils peuvent proliférer en toute liberté. Il y a donc une prolifération des noms possibles, d'où on peut parler, en termes un peu techniques, d'une multivocité des concepts. L'important, c'est la multiplicité. Troisièmement, cet ordre multiple des concepts induit, est obligé d'inventer, induit, produit son ordre propre. Alors, on retrouve en effet la notion d'ordre propre. Tous ces termes multiples en compétition sont en quelque sorte condamnés à inventer leur ordre. Mais quatrièmement, cet ordre est un ordre ouvert. Cet ordre n'assigne rien de façon rigide aux choses. Et je terminerai alors, je reviendrai sur le terme d'irraison. Il y a quelque chose de profond et d'ambigu dans ce que dit Saussure lorsqu'il dit, au fond, tout ceci est fondé sur l'irraison. C'est profond parce qu'il touche là quelque chose. Ce qui est profond dans l'irraison, c'est le préfixe « ir ». C'est la reconnaissance, en effet, d'une contre-raison. Mais c'est ambigu parce que dans irraison, il y a comme une sorte de respect nostalgique d'une raison qu'il est en train d'abandonner et qu'il faut abandonner si on veut, en effet, entendre ce qu'il essaie de nous faire entendre. La raison qu'il conteste et la raison qu'il rejette, c'est une raison abstraite, en survol, une raison fermée. Soit la raison de Dieu, à l'origine, soit la raison humaine abstraite qui, par convention, définit des étiquettes, enfin, pour les choses. Au fond, cette raison, il y en aurait une formule caricaturale. Hélas, elle n'est pas tellement caricaturale, elle a des effets historiques et politiques, et j'en ai trouvé tout récemment, le hasard me l'a fourni, dans les pages que Orwell consacre à la novlangue. La novlangue, c'est-à-dire cette langue fabriquée par dans l'univers de Big Brother. Et dans dans la novlangue, un des points visés par la novlangue, c'est d'arriver à un état tel que, désormais, il n'y aura plus qu'un mot avec un concept rigidement défini. Eh bien, c'est ça. Alors, en ce sens, alors si l'irraison de Saussure, c'est cela, c'est-à-dire c'est le refus de cette raison-là, alors cette irraison cesse d'être une non-raison pour devenir une nouvelle raison. Autrement dit, au moment même où Saussure parle d'irraison, il est en train quitter, comme à regret, et pourtant il ne devrait pas le regretter, de quitter une raison, au moment même où il est en train d'en construire une autre, et une autre raison caractérisée par sa puissance immanente, par sa dynamique relationnelle et par son ouverture. Or, cette raison vaut bien la raison qu'il abandonne.
Mais alors, dans ces conditions, une sémiologie qui serait l'autre côté entre lesquels vous situez Saussure, Johannes Fehr, est-elle une science possible ?
Est-ce que la sémiologie est une science possible? Je pense... de toute façon, la sémiologie, c'est un regard, c'est un certain regard sur la science. C'est sans doute la sémiologie a affaire à la science, c'est un regard sur la science, mais ce n'est peut-être pas comme on se l'imaginait dans les années 50, une nouvelle discipline qui s'ajouterait aux autres ou même qui les dominerait pour les encadrer.
C'était Saussure entre linguistique et sémiologie par Françoise Mandelbaum-Renner. Aujourd'hui, l'arbitraire du signe et la sémiologie. Avec Johannes Fehr, chercheur en histoire des théories linguistiques, Claudine Normand, maître de conférences de linguistique, Michel Arrivé, professeur de linguistique, Pierre Cossa, maître de conférences de philosophie et traducteur du livre de Johannes Fehr. Texte lu par Marc-Henri Boisse. Réalisation Anne Franchini, Philippe Rodin et Nicolas Meyer.
Saussure entre linguistique et sémiologie, une série des chemins de la connaissance à réécouter sur notre site internet franceculture.com. Ainsi, vous trouverez également une bibliographie sur le sujet et une documentation complète. France Culture présente une exposition d'artistes contemporains sur le thème de l'usine. L'occasion pour nous de redécouvrir les valeurs historiques, humaines, sociales et architecturales de l'usine et de nous rappeler l'expérience de celles et ceux qui vivent ou ont vécu la condition ouvrière avec souffrance et fierté. Pour rendre hommage au monde de l'usine, ces artistes européens exposent leurs œuvres dans des bâtiments industriels reconvertis en centres culturels. Usine, une exposition à voir jusqu'au 18 décembre, 4 rue du Chemin Vert dans le 11e, avec France Culture.
Et c'est une matinée un peu particulière sur France Culture, même si nous retrouverons tous nos rendez-vous habituels, à savoir à 9h05 Continent Science, dont l'invité sera le biologiste Antoine Danchin, à 10h Visite médicale, sur le thème aujourd'hui de la sclérose en plaques, à 10h30 Le Tasier et les liturgies populaires en Iran, dans les chemins de la musique, à 11h Notre feuilleton, Pythagore, et enfin à 11h30 L'Université de tous les savoirs, qui recevra aujourd'hui François Aurivel pour un exposé sur le coût de l'éducation. Mais cette journée, vous le savez peut-être, si vous avez écouté Première Édition, est consacrée à Eric Satie, dont les vexations seront jouées 840 fois d'affilée, sans interruption, dans le restaurant du musée d'Orsay, et ce jusqu'à 3h du matin. Pas moins de 21 pianistes se relayeront pour cette performance. France Culture vous fera vivre cet événement en direct, mais pas en continu, bien sûr. Cet après-midi et ce soir, de nombreuses émissions auront lieu en direct du musée d'Orsay, et ce matin, il faudra se contenter de quelques incursions, de quelques virgules musicales, aux alentours de 10h, 11h et midi. Bonne matinée à tous.